Les conférences du Collège de France.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va voir le second volet de mon cours. Je permets de commencer avec un petit rappel de la conférence précédente. Dans la leçon précédente, nous avons vu comment l'idée est souvent reprise dans les sources de l'Antiquité tardive de la contiguïté entre prose et poésie se justifie par leur tendance à se structurer de façon similaire en termes de rythme, d'organisation par des petites unités de sens, les colas, disposées selon les principes du parallélisme et de la répétition, ce qui caractérise la prose d'art, la poésie épique et la poésie accentuelle. Nous avons identifié la raison de cette contiguïté dans la dimension orale de la diffusion de la littérature. L'analyse, vous rappelez, de la structure de l'inscription de l'église de Saint-Georges à Zorava nous avait laissé une question ouverte, qui était en mesure de percevoir la structure de l'inscription et de saisir la différence entre les maîtres, entre la partie accentuelle, hexamétrique et temporose. Cette conférence sera consacrée dans une première partie à tenter de répondre à cette question à travers l'analyse des autres questions complémentaires. Cette première, les inscriptions ont-elles vraiment été lues? Seconde question, qui les a lues et comment? Dans la seconde partie de la conférence, nous verrons comment les inscriptions dialoguent avec la production littéraire et comment la dimension orale était un facteur de diffusion de la culture. Je commence par la Gallia, la partie occidentale de l'Empire. En 469, Sidoine Apollinaire, fin lettré, préfet de la ville de Rome en 468, puis évêque de Clermont-Ferrand, revenait à cheval de Lyon vers Clermont. Quand, du haut d'une colline, il voit des criminels qui pillaient la tombe de son grand-père, Apollinaire Lévier, une tombe laissée à l'abandon dans un cimetière de Lyon. Sidoine dévale alors la pente au galop et arrive à temps pour arrêter et punir sur les champs les malfaiteurs, qu'il appelle Baiuli. L'affaire est racontée dans un style vif et passionné dans la lettre qu'il adresse à son neveu Secundus, une lettre qui est une des plus belles du requel sidonien. Dans cette lettre, Sidoine recommande à son neveu de faire restaurer la tombe et de placer une nouvelle pierre tombale, tout en envoyant un épigramme de 20 endecasyllabes, dont il recommande de surveiller l'exécution pour éviter les erreurs du tailleur des pierres. Ce que Sidoine nous donne des précieuses informations sur la modalité de réception d'une inscription. C'est l'épître 3.12, et vous avez les passages qui nous intéressent à l'écran. Je vais lire la traduction française. Mais afin de rendre impossible pour l'avenir des accidents que ces précédents nous font un devoir d'éviter, je demande que sur les champs et même pendant mon absence, par tes soins et à mes frais, la masse de terre dispersée soit relevée en forme de tertre qui recouvrira une plaque polie. De mon côté, je laisse au vénérable Gaudensius les prix de la pierre et les coûts du travail. C'est important de rappeler que une inscription et un épigramme coûtaient pas mal d'argent. Les vers qui suivent, que j'ai composés la nuit dernière, sont loin, je crois, d'être brillants, car je ne manquais pas d'être préoccupé par les voyages. Si médiocre qu'il soit, je te demande pourtant de les faire rapidement graver sur les marbres, mais veille à que les graveurs ne fassent pas de fautes dans les marbres. La faute qu'il pourra commettre, soit à dessein, soit par inattention, le lecteur jaloux me l'attribuerait plutôt qu'au lapicide. Etc. Le lecteur jaloux, lividus lector. Laissons de côté les déclarations de fausse modestie de Sidoine concernant son poème, qui n'est pas mal après tout, et intéressons-nous à ce qu'il dit à propos du Lividus Lector. Non seulement il suppose qu'il y a des lecteurs pour lire l'inscription, mais il se préoccupe du fait qu'en cas d'erreur, les lecteurs, quelque peu malicieux, seraient contents de l'attribuer à l'impéritie de l'auteur plutôt qu'à celle du graveur. Or, cette préoccupation n'est pas inattendue. Nous sommes à une époque où composer des vers corrects en suivant la prosodie classique était un exercice fastidieux et demandait beaucoup d'entraînement. Le succès d'un homme de lettres se mesurait à sa capacité d'être irréprochable. Qui ne l'était pas était cloué au pilori. C'est le cas, par exemple, d'un mauvais poète iambique attaqué par Grégoire de Nazianz au IVe siècle dans un poème sur ses propres vers. Tu me reproches d'utiliser le mètre, évidemment, puisque tu es amétrique. Il y a un jeu de mots entre mètre en mesure et mètre en mètre. Un auteur d'insultes iambiques qui n'est capable que d'assembler des avortements. Mais on peut aussi évoquer un poème de Clodian, le poète alexandrin qui fit carrière à la cour de Milan et devint le panégyriste d'Honorius de Stilicon, c'est le Carmina Minora 13 Charlet, contre un goûter. Qu'as-tu à voir avec les pieds? Pourquoi blâmes-tu mes poèmes? Toi qui ne sais pas scander, tu déchires mes vers? Ces vers boitent, dit-il, et cette syllabe titube. Bien sûr, un goûter croit que rien ne tient debout. C'est un bel épigramme dans laquelle le poète joue sur la double signification de stare et avec un raffinement brillant se permet l'allongement métrique d'une syllabe brève devant la césure au vers 3, c'est-à-dire le vice même qui lui était reproché selon l'analyse très brillante de Alan Cameron. Mais nous avons suffisamment, je crois, séjourné dans l'empiré de ces litiges entre poètes. Il est temps de revenir sur la terre de l'inscription de Sidoine. Il est évident, j'ai fait des considérations de bon sens ici, que Sidoine ne se préoccuperait pas du jugement sur d'éventuelles erreurs et bévues s'il ne pensait pas qu'il y aurait des lecteurs pour s'arrêter et déchiffrer l'inscription. Ce qui dit Sidoine n'est d'ailleurs pas isolé. D'autres sources littéraires témoignent que les inscriptions étaient lues. Au IVe siècle, Ozon consacre un triste poème à la difficulté de lire des inscriptions ruinées par le temps. C'est un poème très connu d'ailleurs, où quelqu'un essaie de déchiffrer les noms du mort. En ce temps, Lucius, une lettre suivie de des points qui fait elle les prénoms toutes celles. Suis un M gravé, etc. etc. Je lis juste les fans du poème. S'étonner de la mort quand les tombes succombent et qu'émèrent aussi les pierres et les noms. Récemment, Peter Kruschwitz a montré qu'un passage du Querolus, c'est une comédie de style plotinien, entre guillemets, du 5e siècle, contient une allusion à la lecture des inscriptions latines. Au 6e siècle, Paul le Silencière, un poète contemporain d'Agathias, qui écrit lui aussi dans le style moderne que nous avons décrit dans les cours précédentes, constate l'impossibilité de graver des poèmes qui perpétueraient la mémoire des disparus. Et il les fait à travers un épigramme dialogique fictive, selon une tradition qui est très répandue dans l'anthologie grecque. C'est le texte que vous avez à l'écran. Mon nom, pourquoi cela? Ma patrie, à quoi bon cela? Je suis d'une race illustre. Et quand tu serais de la plus obscure, j'ai quitté la vie après une existence glorieuse. Et quand elle aurait été sans gloire, et maintenant je repose ici. Qui es-tu? Et qui? À qui dis-tu cela? Ce sont les questions que nous posons nous-mêmes. Paul connaissait bien son métier. Le thème de la vanitas vanitatum est un lieu commun de l'épigraphie funéraire, nul besoin de le rappeler. Mais je voudrais attirer votre attention sur les derniers vers dans lesquels est employée la métaphore de la voix de la pierre, qui es-tu et à qui tu dis cela. Métaphore qui, en elle-même, est très ancienne, elle apparaît déjà dans les inscriptions de la Grèce archaïque, mais qui, dans l'épigraphie tardo-antique, 4e, 6e siècle, non seulement continue à être utilisée, mais encore apparaît de manière très récurrente, autant que l'épigramme du type dialogique. Voyons seulement des brefs exemples de cela. Les premiers, ce sont des exemples très connus par les spécialistes. Le premier est un épigramme provenant du pavement en mosaïque placé à l'extrémité orientale du collatéral nord de l'église de Pierre et Paul à Gerasa, en Jordanie, qui remonte peut-être aux années 40 du 6e siècle. Mosaïque, c'est un dialogue entre les mosaïques et un lecteur. Mosaïque, qui t'a offert? C'est lui qui a financé cet édifice. Et qui est le pasteur qui est peint? Pour qui fait-il briller ses œuvres? Son nom est Anastase, Petra est sa ville, le sauveur est son désir. Petra Ptolis, c'est une restauration due à Messier Fessel. L'épigramme présuppose un dialogue entre le lecteur qui interroge la mosaïque et la mosaïque dont il écoute les réponses. L'évêque Anastase était probablement représenté par un portrait placé au-dessus de la mosaïque. Je vous rappelle que cette structure dialogique était plutôt répandue, par exemple, dans l'Occident latin. Paolo Liverani, très récemment, a étudié les inscriptions métriques des églises de Rome et a bien montré comme il présuppose un dialogue actif entre les mosaïques, les images et les lecteurs. Arrêtons-nous sur l'image de la pierre comme voix, qui est une image qui est encore plus fréquente des dialogues pour les poèmes sur pierre. Je me limite à cet épigramme funéraire qui vient de l'Égypte, de Hermann, non loin de Luxor. Avant que l'on dise « Ô tombe, qui repose ici ? Qui est son père ?» ce qui est typique des dialogues épigraphiques. La stèle, istili, en grec, clame tout ce qui passe. Ici repose le corps de l'inoubliable Macaria, qui a goûté à la mort comme c'est l'habitude des gens pieux. Quant à elle, elle est servante de la cité céleste, descend et comme récompense de ses épreuves, elle a les célestes couronnes. Souligne que au vers de istili voao en grec anciana, ça signifie clamer, encore crier, mais même parler, ça dépend des contextes. En tout là, dans l'épigramme, il est clair qu'il y a une distinction entre le legein et la voix de la pierre qui clame encore plus fort. On pourrait penser, ça c'est sûr, que les témoins que nous avons brièvement abordés suffisent à garantir que les inscriptions étaient véritablement lues. Mais une inscription, il ne faut pas l'oublier, n'est pas un texte littéraire imprimé de manière pratique comme ça dans une édition avec tous les supports pour en faire la lecture. Elle faisait partie d'un monument placé dans un espace, et sa lisibilité dépendait de nombreux facteurs que nous ne sommes pas toujours en mesure d'évaluer. Lire une inscription signifiait dans l'Antiquité voir en premier lieu le monument, saisir les rapports entre le monument et le texte, s'approcher et déchiffrer une gravure qui pouvait être nette et élégante, mais également moins précise, plus profonde et organisée de manière piètre. De piètre manière. À cela s'ajoute la qualité du texte. En compte, c'est lire une simple inscription funéraire en prose, en compte, c'est lire un épigramme de quelques vers dans un langage très raffiné. Or, l'un des phénomènes les plus significatifs de l'Antiquité tardive est la grande diffusion des inscriptions en vers, non seulement funéraires, mais épidictiques aussi. Pensez seulement aux inscriptions sur les bases des statues. épigrammes qui sont souvent écrites dans un style élevé et même dans le style baroque moderne que nous avons vu la fois précédente. Les difficultés que les gens pouvaient rencontrer face à ces inscriptions, nous pouvons bien les comprendre si nous pensons par exemple à cette longue inscription de Patras en Grèce, qui est un petit poème de 20 hexamètres gravé sur la base d'une statue. Je ne vais pas lire le texte, mais simplement je voudrais vous montrer comment, à premier coup, c'est difficile de se rapporter à cette inscription. Ou encore, donc, à part l'état de conservation, mais disons il faut déchiffrer les lettres et déchiffrer surtout un texte qui est très complexe. Mais pensons par exemple à un cas qu'on avait même évoqué la fois précédente, c'est-à-dire la longue épigramme gravée dans l'église de Saint-Polyecte à Constantinople, 6e siècle, qui fait bien 76 hexamètres. Donc c'est une inscription très longue, une partie de laquelle est gravée sur des plaques dans les narthex, et un autre sur les voûtes, comme vous voyez, les numéros correspondent au vert, sur les voûtes à l'intérieur. Nous n'avons pas les textes sur la pierre, mais le texte nous est parvenu par tradition manuscrite dans l'anthologie grecque, c'est le poème Andis de l'anthologie. Et l'anthologie grecque, les manuscrits palatins nous donnent des informations sur la disposition des textes. Les fouilles archéologiques ont retrouvé jusqu'à un petit morceau de l'inscription originelle, c'est ce que vous voyez dans l'image. Il s'agissait des vers qui étaient gravés à plusieurs mètres de hauteur. Et donc on se pose la question qui était vraiment capable de les lire. Si on considère ça, il n'est donc pas surprenant que de nombreux chercheurs pensent que l'inscription en vers était faite pour être vue, non pour être lue. En 2002, Peter Bing, un spécialiste de poésie hellénistique, refusa de façon catégorique que les épigrammes gravés fussent lus. Et en 2007, vous avez en rouge le passage le plus important, et en 2007, Liz James, précisément à propos de l'inscription de Saint-Polyecte, a observé que le texte était fait pour être vu, mais pas réellement apprécié. C'est le pouvoir magique des lettres, dit Liz James. Dans les dernières années, l'orientation des chercheurs a progressivement changé. Vous avez ici quelques passages de la bibliographie, et beaucoup d'entre eux retiennent désormais au contraire que la lisibilité et la compréhension étaient une véritable préoccupation du commanditaire d'une inscription métrique. Moi-même, j'ai publié quelques articles sur le sujet. Vous comprenez bien que c'est un problème crucial pour notre perspective. Les inscriptions métriques constituent ce que nous pouvons définir comme la poésie de tous les jours, la littérature de la rue, que les femmes et les hommes de l'Antiquité tardive avaient sous les yeux et qui jouaient un rôle important dans la société romaine tardive. Il suffit de penser à toutes les bases des statues en l'honneur des gouverneurs ou des bienfaiteurs qui contenaient un épigramme, ou aux vers qu'on avait fait graver sur les façades des monuments publics ou des églises. Se promener dans n'importe quelle cité tardo-antique signifiait entrer en permanence en contact avec des inscriptions, dont de nombreuses étaient en vers. Comment pouvons-nous déterminer si elles étaient lues ou non? Outre les témoignages littéraires que nous venons de voir et la fréquence des images de la voix dans les textes, des structures qui prévoient un dialogue entre le monument et les passants, mais sont toutes des choses qui, à la rigueur, on pourrait les interpréter comme réutilisation des lieux communs, je crois qu'il convient de se tourner vers une série de preuves internes, pour ainsi dire, représentées par la mise en page des textes. Donc je vous propose de regarder plus de près comment les inscriptions sont présentées au potentiel public. Disons que l'exigence prime et première d'une inscription en vers est que la structure métrique soit reconnue. La solution la plus simple, ce qui ne veut pas dire d'une réalisation facile et répandue, parce qu'il faut avoir une pierre suffisamment grande, est celle de la correspondance, une ligne ou un vers. Pour les hexamètres, les distiques et les giacs, plus rarement pour les trimètres. Vous voyez par exemple dans l'écran un épigramme qui vient d'Athènes où à chaque ligne correspond un hexamètre. Lorsque l'espace à disposition du graveur non suffisait pas, les derniers mots du vers étaient copiés à droite, comme dans cet épigramme funéraire qui vient de Crète, qui se trouve au musée des Rétimnos, qui reprend un usage de la mise en page livresque. Vous voyez, la fin des hexamètres, c'est en retraite à droite. Il n'y a aucune raison de faire ça, si, au moins que, sinon que... Qui a commandé l'inscription voulait que les vers soient reconnaissés. On trouve aussi des cas exceptionnels. Dans les épigrammes andistiques et les giacs avant, une manière plutôt pratique d'indiquer la structure était de distinguer entre pentamètre et hexamètre. Encore ici, vous voyez, d'habitude, les pentamètres sont un peu en retraite. C'est la façon normale que nous avons aujourd'hui encore d'imprimer les distiques et les giacs. Et qui a commencé dans les manuscrits, on la trouve che dans les manuscrits médiévaux, mais a commencé déjà dans l'épigraphie, déjà à Rome, à la fin de l'époque républicaine. On trouve également des cas un peu exceptionnels, comme celui-là, que j'adore beaucoup. Vous voyez, c'est un épigramme où le graveur a essayé de distinguer entre les hexamètres et les pentamètres et a essayé de mettre en retrait la seconde partie des hexamètres et de signaler encore en retrait le début des pentamètres. C'est un soin qui, dans son intention, devait correspondre à une lecture, à mon avis. Ou c'était un signe pour signaler que les vers sont distiques. Quand la correspondance ou ligne en vers n'est pas respectée, il existe des types de solutions pour indiquer l'unité métrique, c'est ça qui m'intéresse. Soit la division en vers selon les poses, les césures, soit l'usage des signes lectionnels, comme on dit. Alors, un exemple de la division selon les césures, c'est une division dans laquelle les vers peuvent être ou non, les vers sont coupés, disons, dans les miroirs épigraphiques d'habitude à la césure centrale, et ça c'est une façon de souligner l'importance de cette coupe. On a pas mal d'exemples d'hexamètres divisés à la césure médiane qui confirment d'ailleurs l'évolution de l'hexamètre antique en envers formé par Décola, comme nous l'avons vu dans la leçon précédente. Ça, c'est un exemple qui vient encore de Crète, du Praetorium de Gortina, ce qui est intéressant, c'est que, comme vous voyez, c'est une colonne, donc c'est un miroir épigraphique très étroit. Mais quand même, le graveur a essayé de respecter les poses métriques. Dans cette inscription qui vient de Hamat Gader, en Palestine, ici, il est clair que les vers sont distingués, comme vous voyez, sont séparés à la césure moyenne, sont des hexamètres très baroques. On va retourner sur ces textes d'ici quelques minutes. Et encore un exemple qui est très clair, cela vient de Leptis Magna, et vous voyez, sont des hexamètres séparés même avec un espace blanc, et les hexamètres sont coupés à la césure moyenne, au milieu. ce qui donne aussi une présentation très jolie de l'écriture du texte. La seconde façon de marquer les vers, c'était l'usage de ce que j'ai appelé signes lectionnels, qui faisaient office de marqueurs de la structure métrique. Et ils sont attestés de manière abondante, donc je ne vous présente que quelques exemples. Par exemple, cet épigramme qui est un épigramme pour la statue en bronze de Flavius Ulpius Erythrius, fin du IVe siècle. Comme vous voyez, la mise en page ne respecte pas la séparation de la structure métrique, mais la fin des hexamètres et des pentamètres, tandis que par un double trait oblique, qui se trouve également attesté dans des inscriptions du IIe siècle et dans un rouleau littéraire, ainsi que fréquemment dans des exercices scolaires, comme c'est contenu dans la tablette du manuel de Paphnutios que vous avez à droite. C'est là, si j'arrive, voilà, ça c'est. On peut arriver à distinguer un double trait oblique et qui est le même trait qu'on trouve dans les manuels, dans les cahiers, dans les tablettes scolaires de Paphnutius. Encore, on a les traits simples qui peuvent diviser les vers, comme ici. Ça, c'est l'épitaphe de Majorinus, qui est mort en 365. On trouve d'autres signes qui sont également diffusés, les points médians, les dicolons, l'espace blanc, l'édera, la diplée. Même dans des inscriptions qui sont gravées, disons, pas parfaitement, comme cette inscription de Macédoine, où on a quand même des espaces blancs qui signalent la fin des vers. Évidemment, reconnaître l'articulation interne d'un texte était un moment essentiel de la lecture. Dans une inscription chrétienne de Nicopolis ad Nestum du IIIe siècle, celle-là, sont employées l'édera pour signaler la fin des vers et un signe, celui-là, voilà, qui rassemble un sorte de vase pour distinguer le début de la seconde partie de l'épigramme qui commence par la séquence topic Eide Theleis. C'est-à-dire, ce signe-là, ce n'est pas au hasard, mais va signaler que l'épigramme, c'est un double épigramme, à vrai dire. Donc, il y a une seconde partie qui commence. Et Eide Theleis, c'est un début typique de l'épigraphie funéraire. Encore, voilà, pardon. On trouve également des mises en page qui mettent en évidence des termes importants du texte, non pas tellement pour montrer la structure métrique, mais plutôt pour souligner l'importance d'un mot ou le sens général du texte. Je m'explique tout de suite. Par exemple, la position centrée habituelle des dernières lettres ou du dernier mot, par les soucis de symétrie décorative d'ordinaire, ça c'est quelque chose qu'on trouve souvent, c'est-à-dire le dernier mot est mis au centre, parce que c'est plus joli, on arrive à voir que c'est mis au centre parce que ça donne aussi un sens emphatique au mot même. Dans ce cas-là, par exemple, teleio, soit Zeus, soit les deux chrétiens, selon les interprètes, est mis en exergue et son importance est soulignée aussi par le jeu étymologique du texte. Technis tec telei, kete keonte kesin, ec teleoi teleio. Ça, c'est tout à fait clair. Mais encore, l'exemple que j'adore, c'est un texte qui vient de Smyrne, où vous voyez la mise en page ne respecte pas du tout la métrique, m'a plutôt, disons, le graveur a essayé d'avoir un jet de plein et de vide, envers long, disons, en ligne longue, ligne courte. Mais ce qui est important, que les mots les plus importants du texte, seismou, est mis au centre de l'inscription et en pleine évidence. Je vais lire ce texte-là parce que ben, c'est un texte quand même intéressant. Namokaris, esprit génial, à toi, gouverneur, cette gloire. Car moi, Smyrne, après la frais malheur du tremblement de terre, par ton ardent labeur, tu l'as entièrement restauré. La traduction a été modifiée parce que mais c'est la leçon de la pierre, tandis que l'épigramme qui a été copié et a été transmise dans l'anthologie grecque a été transmise avec un gué qui change complètement le sens et qui oblitère les dialogues entre, efface les dialogues entre la pierre et les lecteurs et la ville. À mon avis, même quelqu'un qui n'était pas trop lettré, disons comme ça pour l'instant, est arrivé quand même à lire Seismou, se rendait compte que c'était un épigramme qui en honneur de quelqu'un qui avait restauré la ville, qui avait fait du bien à la ville après un tremblement de terre. On a pris l'habitude d'appeler ça caption words en anglais, et c'est les caption words, par exemple, sont très répandus dans l'épigraphie byzantine. Andreas Roby les a étudiés. Enfin, je voudrais rappeler que des signes diacritiques et de ponctuation apparaissent également, bien que de manière inégale, et qu'il n'est pas toujours facile d'identifier leur fonction exacte. Il est probable, mais loin d'être certain, que les signes diacritiques aient déjà été indiqués dans les modèles que l'ordinateur, celui qui dessinait, disons, la mise en page, et les graveurs ont ensuite reporté sur la pierre, même si l'on peut exclure que ce soit la Dédé qui les a ajoutés. Ora, c'est difficile, ça c'est une question ouverte parmi les épigraphistes, chez les épigraphistes, c'est-à-dire si existait un brouillon, ce qu'on appelle minuta ou non, un modèle. Moi je pense que oui. Et on a dans les papyrus quelques exemples des modèles des textes qui étaient conçus pour être gravés. Et ici vous avez un de ces possibles modèles, c'est un papyrus qui provient de Panopolis et qui porte le brouillon d'une inscription métrique chrétienne. Vous voyez, avec des signes diacritiques, une apostrophe, un tréma et un marque de voyelle longue au vers 5, tison. Le macron sur le dichronon devait avoir une fonction distinctive, probablement aussi en raison d'une lecture orale, je crois. Dans les ateliers d'inscription, la connaissance de la pratique livresque, je pense, a dû conduire à la préparation des modèles munis de signes diacritiques, un peu comme ça, qui, dans certains cas, ont été reportés par la tailleur de pierre sur l'inscription. Mais, et c'est là qui m'intéresse, l'expertise des commanditaires, qui avaient reçu une éducation scolaire, où l'attention portée à la division correcte des mots, aux accents, et au maître était manifestement la norme, cette expertise a également dû jouer un rôle. Je vous montre des images que vous connaissez sûrement, ce sont les épigrammes de Trimitis, peint en rouge sur le fond des plâtres blancs d'un mur d'une école accolée à un domus du milieu du IVe siècle. Or, comme vous voyez, il y a pas mal de signes de lectional signs. Il y a des esprits, des accents, des apostrophes, des marqueurs de quantité, des points pour marquer les césures. Tout ça montre en prise directe la pratique didactique avec laquelle on apprenait aux élèves à lire en respectant la scansion et la prononciation. Donc il y a un lien je crois, très étroit entre la pratique de l'école, la pratique des ateliers où on produisait les livres et les ateliers d'inscription. Les soins avec lesquels les grammaticos a indiqué les quantités et les points difficiles du texte dans les épigrammes de Trimitis montrent, sans l'ombre d'un doute s'il le fallait, que la performance du texte poétique, la prophora selon la terminologie antique, était une préoccupation première de l'enseignement à l'époque tardive. En outre, comme l'a montré Peter Parsons, cet aspect apparaît dès l'époque impériale dans certains papyri homériques. Alors, tout ce que nous avons vu jusqu'à ce moment, les témoignages littéraires, la mise en page qui respecte le plus possible la structure métrique, la présence des signes lectionnels, montrent, sans aucun doute, je crois, que l'on a veillé à favoriser la reconnaissabilité du caractère poétique des inscriptions. Ce qui conduit à penser, avec l'examen surtout des preuves internes, que les lecteurs étaient invités à une lecture active, orale et performative. La seule différence que je vois avec la performance d'un texte littéraire réside uniquement dans le fait que les lecteurs ne se contentent pas d'écouter, comme en écoutant Libanios par exemple, m'est appelé à prêter sa propre voix au texte épigraphique. Bien entendu, ça c'est un problème difficile à résoudre, la définition du lecteur d'épigramme sur Pierre est très floue. Il avait sûrement des destinataires immédiats, les proches d'un défunt, la communauté civique ou celle des fidèles dans le cas d'une inscription placée sur une église, mais aussi il y avait aussi des destinataires potentiels qui changent au cours du temps. Pour les inscriptions dans l'église, nous avons des témoins d'époque byzantine qui nous informent sur le fait qu'elles étaient récitées par un anagnostis, par un lecteur, au moment de l'inauguration de l'église, et puis répétées chaque année lors de la fête du saint. Il n'existe pas, à ma connaissance, de témoins similaires pour l'époque tardive, mais il n'y a aucune raison de penser que les choses étaient différentes. Une mention explicite d'une cérémonie d'inauguration se trouve peut-être dans la longue inscription de Patras que nous avons déjà mentionnée il y a quelques minutes. Je vais lire avec vous les trois derniers vers. Aussi, les chantant dans la demeure à longueur de journée, et lui répondant tous par des présents, lui ont-ils élevé cette statue de pierre tout à fait ressemblante. Ce qui m'intéresse, c'est le vers 18, Panimadon Imniondes. Après une cérémonie officielle que nous pouvons facilement imaginer, il y avait la récitation d'un éloge de Basile, Iumneo, au vers 18, Alessand de Loué, comme c'est souvent le cas dans la langue tardive, sous les traits d'une fête de toute une journée, pane et madone, signifie pendant la journée, la boule et le demos probablement auront officiellement dévoilé la statue et quelqu'un aura lu l'épigramme. C'est sûr, seulement ceux qui avaient reçu une éducation scolaire complète, ce que nous appelons habituellement l'élite cultivée, auront compris jusqu'au bout le texte de cette inscription, qui est plutôt raffiné avec des expressions de la poésie la plus élevée. Le reste des gens aura partiellement saisi le caractère exotique, c'est-à-dire poétique du texte, de quelques mots, et d'après les rythmes uniformes, et quelques péchantins aura suivi la déclamation du poème, d'autant plus qu'ils étaient tous préparés à l'événement. Comme les colques mentionnés dans la leçon précédente, il y aura eu des spectateurs capables de saisir l'essence émotionnelle du poème. L'effet d'être préparé, donc on va écouter la récitation d'un épigramme, l'effet d'être préparé, de savoir plus ou moins bien de quoi l'on parle, a certainement aidé la compréhension de la récitation du texte. Procope de Gaza nous le rappelle dans un passage de son panégyrique de l'empereur Anastase, probablement Yuan au début du 6e siècle, 511. C'est le paragraphe 24 de ce discours. Pour moi, maintenant, j'avoue éprouver une sensation insolite. En raison du plaisir que me procurent tes nobles actions, je ne parviens pas à faire conformer mon discours à mes capacités, mais mon propos tourne à longueur, comme si j'ai parlé de tes exploits devant un public de gens qui ne les connaissaient pas. Néanmoins, même pour vous, c'est toujours un grand plaisir d'écouter ceux dont la renommée docile à nos désirs a souvent été la messagère. Il en va encore de même, dit-on des amants qui au fil des temps connaissent l'objet de leur amour, plus que tout autre chose. Ils l'ont bien s'efforcé de les connaître davantage, ils ne trouvent cependant des plaisirs à parler ou à en entendre parler de rien sinon du sujet qui leur rappelle. Laissons de côté la similitude, mais le conseil c'est clair. Et il ne s'agit pas seulement de rhétorique ici, je crois. Le public connaissait les mérites de l'empereur, ses bienfaits, qui étaient évidemment diffusés par la propagande officielle. Et donc le public était préparé à écouter. Même la prose baroque n'est pas facile du tout de Procope. Il est d'ailleurs possible, tout à fait possible, que le texte d'un poème sur Pierre circulait sur forme transcrite. C'est une hypothèse qui a été défendue par Charlotte Ruescher et qui s'est certainement produite dans de nombreux cas. Ce qui expliquerait par exemple la circulation de divers poèmes sur Pierre Constantinopolitain, dont les poèmes de l'église Saint-Polyecte, que nous avons évoqué plus haut, qui ont ensuite été imités dans la poésie ultérieure. Je pense, à vrai dire, j'en suis convaincu, que la lecture performative haute voix était également utilisée par les destinataires non immédiats des inscriptions en vers, les publics potentiels, pour ainsi dire. Si dans le cas d'une lecture occasionnelle, c'est-à-dire hors contexte officiel, la culture du passant qui s'arrête pour lire était naturellement déterminante, il ne faut pas cependant oublier que selon toute probabilité, le contenu des textes circulait d'une manière ou d'une autre. Essayez d'imaginer, c'est la fantaisie qui évoque comme méthode Peter Brown aussi, essayer d'imaginer n'importe quelle ville de l'époque romane tardive, parsemée de statues au socle gravé, d'édifices publics ou d'églises dont les inscriptions mentionnaient les noms du bienfaiteur ou du saint. Leur contenu, ainsi que leur caractère poétique, étaient certainement connus de la communauté grâce à la foi à la lecture officielle, qui était peut-être répétée, et à bouche à oreille, qui existait sans doute. Je pense qu'il faut imaginer que le contenu entrait d'une certaine manière dans la mémoire culturelle de la communauté. Permettez-moi d'examiner un cas de plus près un cas qui explique bien le processus que je viens de décrire. Il s'agit d'un petit ensemble d'inscriptions provenant des termes d'Alma Gader, Palestine, aujourd'hui en Israël, des bains thermaux très célèbres, également visités par l'impératrice Eudoxie, l'épouse de Théodose D, qui dicta une courte ekphrasis que vous avez à l'écran, des fontaines gravées dans une belle inscription sur des colonnes. C'est une inscription sur laquelle je reviendrai la leçon prochaine. À la fin de l'Antiquité, la date malheureusement n'est pas certaine, peut-être fin 6e, début 7e siècle, un certain Léon restaura un tholos dans les termes et voulut qu'une inscription célébrant son œuvre fût inscrite dans les murs occidentaux de la salle des fontaines. Ici vous avez voilà, un plan où c'est avec les sites de l'inscription. Je vais lire ce texte. L'étolos de la piscine chaude doit être nommé d'après un autre, originaire de Césarée, Léon, comme elle avait été nommée auparavant, d'après Alexandre. Les distiques suggèrent au lecteur que la salle doit désormais porter le nom de Léon et non plus celui de son prédécesseur Lucius Mucius Alexander, qui à l'époque de l'empereur Anastase avait restauré les thermes et reconstruit la Tholos. D'ailleurs, trois inscriptions, un entrimètre et des un hexamètre, célébrant Alexandre ont été conservés. Comme on peut aisément le constater, l'épigramme de Léon répond donc, à cet épigramme-là et même imite la mise en page des trois épigrammes pour Mucius Alexander, c'est-à-dire une mise en page qui garde la pose, les poses métriques, qui utilise des petits points de tricola pour marquer la fin des mots et des vers. Et en plus, comme vous voyez, voilà, il s'agit de renommer à nouveau la Tholos après Alexandre avec le nom de Léon. Ces petits corpus d'inscription d'un bon niveau littéraire témoignent des différentes étapes de la restauration de la piscine chaude des thermes et son contenu devait être connu de la communauté qui fréquentait les bains. Et même un lecteur occasionnel de l'épigramme de Léon aurait pu saisir d'emblée les palais qui est mis en évidence. À savoir, il aurait bien pu saisir que c'est le passé qui était remis en question et dépassé. Palai, c'est encore une fois un caption word, un mot qui remarque, comme nous l'avons vu dans l'inscription de Damocaris de Smyrne. Par la suite, établir une fois lu cette inscription, établir un dialogue avec l'inscription d'Alexandre n'aurait pas dû être trop compliqué, à mon avis. Cela me permet de passer au dernier point de la leçon d'aujourd'hui, à savoir la littéralité des inscriptions métriques considérées au point de vue de l'oralité. Voilà. Je suis convaincu que les inscriptions métriques font partie intégrante du système littéraire de l'Antiquité tardive. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'écrire qu'il est absurde de séparer la haute littérature et la littérature de la rue. C'était la heureuse définition de Gabriel Sanders. En d'autres termes, il existe une littéralité des inscriptions qui se nourrit de la relation entre les textes littéraires avec les textes littéraires, non seulement en termes d'imitation des modèles ou de reprises lexicales, qui est le niveau le plus banal, mais aussi en termes de structures rhétoriques et de stratégies littéraires. Par exemple, dans les inscriptions poétiques des commanditaires chrétiens, il est fréquent que des syntagmes des inscriptions typiquement chrétiennes soient employés à côté des éléments du langage poétique traditionnel. En d'autres termes, les inscriptions témoignent elles aussi du changement culturel propre à l'Antiquité tardive, dell'appropriation et della transformation della paideia classique par la greffe d'une nouvelle paideia chrétienne. Juste un petit exemple, c'est une inscription qui provient d'une église à l'honneur de Saint Menas, en Cilicie, une église de Nazarbe, où l'épigramme célèbre l'image du saint. Menas, toi qui... Menas, toi qui chemines dans les hauteurs, sauve ton mamelon aux nombreuses sources en accordant à ses habitants d'avoir une jeunesse renommée pour la beauté de ses jeunes filles. Grâce aux libéralités impériales, ton image est ici bien protégée dans la conque de l'abside par les soins de Philagrios. Le poème en traduction française est plutôt clair, en grec c'est beaucoup moins clair, à vrai dire. Son lexique est assez élevé et montre le mélange des modèles classiques et chrétiens dont nous avons parlé. Dans les premiers vers, «iupsikeleutos» est un adjectif utilisé par Grégoire de Nazianze, puis par Nonnos et ses successeurs, tandis que Polyupidax est un poétisme qui signifie « aux nombreuses sources » et qui est associé chez Homère au mont Ida. Mazos, pour désigner une colline, appartient lui aussi à la tradition poétique. Et à vrai dire, en grec, Polyupidaka Mazon est un syntagme inédit. Au Verdet, Eu Parthenon Eben, c'est un syntagme que l'on trouve uniquement une fois dans les Dionysiaques de Nonnos. Eu Parthenon signifie qui est caractéristique d'une jeune fille. Et encore, la façon d'indiquer les bassins de l'abside, strophe au vers 4, strophalinx absidos, appartient au langage poétique très élevé. Et comme vous voyez, les derniers mots, on a parlé de ça dans la précédente leçon, le dernier mot, c'est un vers des quatre, le dernier vers, c'est composé par quatre mots, c'est un tétracolos. Il est clair que l'auteur avait fait ses classes. S'il s'agissait d'un épigramme littéraire, personne n'hésiterait à observer que, par exemple, l'adjectif polupidax, qui qualifie le mot Ida chez Homère, marque une allusion plus appuyée, laissant entendre que la colline Rishano du sanctuaire de Mena était meilleure que le mot Ida, c'est-à-dire qu'il était la véritable montagne divine. Les analyses de la poésie chrétienne sont pleines de choses comme ça. Mais comme on le voit, l'inscription n'est pas certainement luxueuse et la mise en page est un peu approximative, ce qui contraste avec la qualité du texte, mais cela, ça revient souvent, à vrai dire. Or, les fidèles qui s'arrêtaient pour lire ou se faire lire ces textes, comment réagissaient-ils à ces sollicitations littéraires? Qui connaissait un peu d'Homère, qui était toujours la base de l'éducation, nul besoin de les rappeler, réussissait sans doute faire les liens entre l'adjectif polyupidax et le mot Ida. J'ajoute que reconnaître ces petits marqueurs homériques n'était pas nécessairement l'indice d'une culture sophistiquée, on le verra la semaine prochaine. D'autres auront été frappés par le vocabulaire tout à fait inhabituel, les rythmes peut-être et l'allure poétique de l'ensemble. Ainsi, une lecture à haute voix, peut-être répétée de l'épigramme, sans doute contribuait à faire circuler son contenu et son vocabulaire élevé pouvait pénétrer un petit peu dans la communauté. Les exemples pourraient être facilement multipliés, mais nous n'avons pas évidemment pas le temps. Je voudrais plutôt conclure en soulignant l'importance de la poésie épigraphique pour mieux comprendre la culture de l'Antiquité tardive. Tout d'abord, le fait que les textes, que des textes conçus pour être fixés sur un support durable et destiné à un public varié et persistant dans le temps étaient lus de manière performative, confirme l'importance de la dimension orale dans la société de l'Antiquité tardive. Et là, nous sommes vraiment au cœur, je crois. Deuxièmement, cette dimension orale nous rappelle que les textes épigraphiques ne peuvent pas être analysés comme des textes littéraires tout court, mais qu'il faut essayer d'évaluer leur impact sur différentes catégories de lecteurs, comme tous les textes littéraires d'ailleurs. Troisièmement, le prestige durable de la poésie au IVe et VIe siècle s'explique également par ses diffusions orales, qui la portent vers des couches moins éduquées de la société. À Rome, par exemple, en 544, un poème aussi difficile que l'Historia Apostolica d'Arator, che sia un paraphrase des Actes des Apôtres, après avoir été présenté publiquement au pape Vigile, a été récité à Saint-Pierre-Aulien, devant un public mixte, à Saint-Pierre-in-Vincoli, au cours de pas moins de quatre performances qui ont un grand succès. Les sources disent que le public était enthousiaste et voulait réécouter encore les poèmes. Peut-être les sources exagèrent le succès, mais si c'est le cas, elles représentent ce que l'on attendait d'une performance. Donc c'est une exagération qui représente un peu les attendus, disons comme ça. Peut-être que Claudien aussi exagère dans ses fragments d'un poème en grec, la Gigantomachie, quand il parle de son anxiété à la perspective d'une récitation devant le public exigeant d'Alexandrie. Ce sont les vers en rouge dans la traduction. Claudien se représente avec la métaphore d'un navire. Il dit comme la mer de la cité d'Alexandre s'étend de partout, ces vagues infinies des peuples se brisent l'une après l'autre, et moi, avec mon talent de chantre, de marin de muse, me confiant à vivre l'Iconian, je file vers la victoire, etc. Les vagues infinies sont les gens d'Alexandrie qui participaient avec beaucoup d'enthousiasme à la lecture dans les auditoria. Vous avez là-bas un joli photo d'un auditorium de Commeldica, dans l'auditoria où on récitait la poésie. Peut-être il exagère, mais le sentiment d'attente du public et sa capacité à juger qui transparaît n'est certainement pas loin de la réalité. Enfin, la dimension performative signifie aussi la diffusion de la culture hellénique et de son prestige par d'autres canaux que ceux de la page écrite, que nous devons, je crois, nous efforcer de reconstituer ou d'imaginer. Quelle part, par exemple, de la culture mythologique et historique véhiculée par les patria, des poèmes qui vantaient les origines des cités, un genre qui était très en vogue au IVe et Ve siècle, pénétrait le public plus large? Combien à Gaza il y avait des gens capables de suivre, combien à Gaza était capable le public de suivre en détail les récits à la fois agréable et topique des comparaisons que Procope fait entre Anastase et Thémistocle, Cyrus le Grand, etc. dans son panégyrique. Probablement, le simple fait d'entendre des noms liés à l'histoire athénienne véhicule un sentiment de prestige et de fierté municipale qui renforce l'identité de la ville. En d'autres termes, il faut essayer pour comprendre comment ça fonctionnait la communication littéraire à l'Antiquité tardive, il faut essayer de tenir en compte les publics aussi constitués par des gens moins cultivés. Et ça sera l'objet de notre prochain cours. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.